Marc, chapitre 2. C'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Merci beaucoup. Donc avant de lire, je vais prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci de nous donner la grâce de voir ce nouveau jour. Merci de nous avoir rassemblés ici et pour toutes ces chants que nous avons écoutés et chantés sur le pardon des péchés. Et Père, nous voulons regarder ta parole qui parle encore une fois de ce sujet. C'est combien important. Père, s'il te plaît, dispose les cœurs de chacun de nous, mon cœur et le cœur de chaque personne qui écoute. Aide-nous à voir la grandeur de ton œuvre. Aide-nous à voir ce que tu nous dis dans cette parole, ce que tu nous apprends sur toi, sur Jésus, sur nous-mêmes. Père, s'il te plaît, bénis-nous. Père, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Donc, je lis dans Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen, c'est la parole de Dieu. Donc, nous sommes depuis quelques dimanches dans une série intitulée « Les rencontres de Jésus ». Et nous voyons comment Jésus, dans son humanité, interagit avec les différentes personnes qui passent par différentes situations. Et la rencontre d'aujourd'hui est un peu particulière. Donc, si vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu la rencontre de Jésus avec Zachée. Et Jésus a parlé à Zachée. Il lui a dit je m'invite à manger chez toi. Il a passé la journée ou la soirée avec Zachée. Et c'est comme ça que Zachée est venu au Seigneur. Mais la rencontre d'aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un chez qui Jésus s'invite ou quelqu'un qui s'invite. C'est quelqu'un qui vient par la force. Il entre par le toit, comme on a vu. Et c'est un homme paralytique. Et c'est ses amis qui l'amènent à Jésus. Donc, il est alité, il est incapable de marcher. Quand la Bible dit paralytique, c'est peut-être qu'il a une autre maladie. Mais en tout cas, il est immobile. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cet homme et aux gens qui sont avec lui. Mais surtout, le récit de cette rencontre parle beaucoup de Jésus. Donc, je nous propose de surtout nous intéresser à Jésus et de comment il interagit avec cet homme. On voit au cœur de ce texte que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Et c'est le titre de ce message aujourd'hui. Et on voit ça au verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et donc, on verra le texte en trois parties. D'abord, Jésus qui annonce la parole. Avant que les gens arrivent, Jésus était en train, avant que les amis du paralytique arrivent avec lui, Jésus était en train d'annoncer la parole. Ensuite, on va voir que Jésus pardonne les péchés. Ensuite, on va voir que Jésus a le pouvoir de guérir physiquement, de restaurer. Donc d'abord, au verset 1, on voit, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. » C'est toujours intéressant pour nous situer dans un texte de la Bible et pour comprendre ce que le narrateur essaie de nous dire, de regarder aux mots qui introduisent le texte ou aux phrases de liaison. Et le texte aujourd'hui commence par « quelques jours après ». Donc il veut nous dire « après tout ce qui s'est passé ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez la fin du chapitre 1, Jésus avait guéri un lépreux. Donc on sait que souvent les lépreux, ils étaient considérés comme impurs. Donc ils restaient pas avec tout le monde, ils restaient au bord de la ville, au port de la ville. Et donc Jésus passait par là, il a vu ce lépreux, il a guéri. Mais il avait dit au lépreux, ne parle à personne. Et après, dans le texte, on voit pourquoi il avait dit. Parce que quand il est allé parler à tout le monde, toute la foule venait vers Jésus. Et Jésus ne pouvait plus se déplacer, il ne pouvait plus aller où il voulait. Et après avoir dit ça, Marc nous dit quelques jours après. Donc peut-être que Jésus se rendait dans cette maison dès le début, mais il n'a pas pu parce que tout le monde l'empêchait. On nous dit juste quelques jours après. Donc peut-être c'est quelques jours où Jésus a dû se cacher pour que la foule l'évite. Et pendant ce temps, c'est possible que Jésus ait dormi à la belle étoile. À l'époque de Jésus, souvent les voyageurs pouvaient dormir à la belle étoile, ils avaient une couverture. Donc Jésus a dû peut-être se dissimuler pour que les gens ne le voient pas. On dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Capernaum, c'est une ville où il y a beaucoup de disciples qui viennent de Capernaum, notamment Pierre, Jean et Jacques. C'est une ville au bord de la mer, c'était des pêcheurs. Et Jésus a commencé un peu son ministère là, et c'était un point central. Il y a un autre évangile où on nous dit Jésus était dans la maison de Pierre, et la belle-mère de Pierre le servait. Donc on sait pas, Marc ne précise pas de quelle maison il s'agit, mais c'est peut-être la maison de Pierre. On dit quelques jours après qu'il a réussi à enfin à entrer dans la ville, il arrive à la maison, peut-être pour se reposer, mais à la suite, on a appris qu'il était à la maison. Donc peut-être les gens ont dit, hé, voilà Jésus, on ne savait pas où il était, mais il est là, il est là. Donc le mot passe vite, et puis les gens apprennent qu'il est à la maison. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 2? La conséquence, il s'en sembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Tout ce que Jésus voulait. Peut-être, on voit souvent dans les évangiles aussi, Jésus vient avec ses disciples, ils essayent de se cacher pour se reposer, parce que les foules tout le temps l'acculaient. Et là, ceux qui voulaient et probablement éviter arrivent. Il s'assemble un si grand nombre de personnes que les gens n'arrivent plus à circuler. La cour ne peut plus les contenir, l'espace devant la porte. Et la fin du verset 2 est impressionnante parce qu'on dit, il leur annonçait la parole. Malgré la fatigue, malgré le fait qu'il a dû probablement essayer d'avoir un peu de temps, peut-être pour manger, peut-être pour se reposer. Mais il voit toutes ces personnes devant lui. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il leur annonce la parole. Je pense qu'aucun mot, tout ce qu'on lit dans la Bible, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré. Je crois qu'aucun mot n'est au hasard. Jésus voit ces personnes et le besoin le plus urgent, c'est la parole de Dieu. Il leur parle de la parole de Dieu. Et je pense que c'est encore vrai pour nous. Ce dont nous avons le plus besoin, ce que Dieu sait. Donc, qui est notre plus grand besoin, c'est écouter la parole de Dieu. Jésus veut nous parler, Jésus veut toujours nous parler. Et dans Jean, l'apôtre Jean nous disait, Jésus est la parole faite chair. Il y a un épisode qui m'a toujours marqué dans l'Ancien Testament, dans Exode 20, Dieu a parlé du ciel. Dieu, dans sa forme spirituelle, à parler du ciel, et quand il parlait, il y avait des flammes, il y avait du tonnerre. Et des fois, les gens me disent, pourquoi Dieu ne nous parle pas? Je dis, quand Dieu parle, les gens ont peur. Et dans Exode, quand Dieu parlait, les gens ont dit à Moïse, non, 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 dis à Dieu de ne plus nous parler, parce qu'il y avait les rochers qui se fendaient. Et les gens disaient à Moïse, les Israélites disaient à Moïse, va, parle avec Dieu, écoute ce qu'il va te dire, et viens nous dire. Dieu a toujours utilisé pour parler aux hommes un canal humain. Parce que lui-même, dans sa présence, on ne peut pas supporter la présence de Dieu. Il a dit quelque part à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Mais ici, Jésus, c'est Dieu fait homme. Dieu a pris la condition humaine pour pouvoir nous parler, pour pouvoir être proche de nous, en la personne de Jésus. Et c'est ce qu'il a envie de faire. Et quand il voit toutes ces personnes, il leur annonce la parole. Et Marc est souvent concis, et on ne sait pas de quoi Jésus leur parle. Moi, je me pose la question, mais si Jésus était là, de quoi il parlait? Et régulièrement, tout le temps avec les gens. Mais j'ai regardé un peu dans les évangiles, 80 fois dans les enseignements de Jésus, l'expression le royaume des cieux, le royaume de Dieu revient. Jésus, j'aime beaucoup une parole où il a dit à ses disciples dans Jean 14, je crois, il disait, il y a des demeures dans le ciel. Je vous parle parce que je veux que vous soyez avec moi dans le ciel. Jésus nous parlait du royaume des cieux. Jésus parle et parlait du royaume des cieux. Donc Jésus annonce la parole. Et pendant que Jésus enseigne, des gens viennent à lui avec un paralytique. Et c'est là qu'on va voir que Jésus est le Dieu qui pardonne les péchés. Il va révéler sa personne. Dans verset 3, des gens vinrent à lui en menant un paralytique porté par quatre hommes. C'est peut-être la famille du paralytique, c'est peut-être ses amis, on n'a pas de précision. On sait pas combien ils sont, on dit des gens viennent vers lui, mais en tout cas, il y a quatre qui le portent. Ça m'a fait penser ce week-end, on était au mariage d'un ami. C'est un ami un peu costaud, je le dirais devant lui, c'est mon ami, hein. Il est un peu costaud. Et on était quatre garçons d'honneur, on s'est dit, venez, on lui fait une blague, on va le porter. Et les gens ont dit, non, 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 on ne peut pas le porter, il est costaud. Et on s'est dit, bon, on est quatre, ça va, on peut. Dans le fait qu'on précise que quatre personnes le portent, ça montre que c'est un adulte bien, 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 bien costaud. Mais même à quatre, il n'arrive pas à arriver à Jésus. On dit au verset 4, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Il y a tellement de personnes rassemblées, tout le monde veut voir Jésus, tout le monde veut écouter Jésus. Et même le fait qu'il y ait un malade, les personnes ne le laissent pas passer. C'est leur moment de voir Jésus. Mais les quatre hommes ne vont pas se laisser faire. On dit à cause de la foule, comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors le toit, c'est peut-être, enfin, dans les maisons de cette époque-là, d'Israël, enfin, les maisons avaient un toit, c'était pas forcément bétonné. Enfin, le toit, c'était un endroit où on séchait des graines, où on conservait des choses. Et puis le toit, ça pouvait aussi être comme une véranda où les gens allaient faire la sieste, etc. Si vous vous souvenez, vous connaissez l'histoire, dans Actes, à un moment, l'apôtre Pierre prie sur le toit. Donc, le toit, c'était un peu comme une terrasse. Donc ces hommes-là vont monter sur le toit, ils vont trouver tous les moyens d'arriver à Jésus. Et vu que la foule est devant la porte, ils vont passer par l'escalier qui monte sur le toit. Ils vont découvrir le toit. Peut-être qu'ils vont casser, peut-être qu'ils vont juste ouvrir une ouverture qui existait, on ne sait pas. Et puis au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus, voyant leur foi, on nous dit. Je sais pas ce qui vous impressionne. Moi, ce qui m'impressionne quand je vais regarder un truc, souvent, c'est le sport. J'aime beaucoup le foot, le basket. Et quand je vois les performances des sportifs, je suis impressionné. Souvent, je suis impressionné par les gens intelligents, les gens qui arrivent à raisonner rapidement. Mais est-ce que vous savez que Dieu peut être impressionné? Mais si Dieu a tout créé, qu'est-ce qui peut impressionner Dieu? Dieu a tout vu, Dieu connaît tout le monde. Si on a un peu d'intelligence ou plus d'intelligence, c'est Dieu qui nous a donné. Donc, mais qu'est-ce qui peut impressionner Dieu? Jésus, voyant leur foi, la foi des hommes peut impressionner Dieu. Même il y a un épisode où il y a un non-juif qui vient vers Jésus, je ne sais pas si on va faire cette rencontre-là, et qui lui dit, j'ai un serviteur malade, viens vite le guérir. Et Jésus dit, ok, je vais venir. Il dit, non, tu peux le guérir juste avec la parole. On dit, Jésus a été impressionné par la foi de cet homme. C'est quoi la foi? La foi en Jésus, c'est croire que Jésus est Dieu. C'est croire que Jésus est puissant. C'est croire qu'il dit vrai. Donc, Jésus admire la foi des hommes. Et en même temps, quand Jésus reprenait souvent ses disciples, c'est parce qu'il manquait de foi. Et si vous regardez, souvent quand Jésus reprend ses disciples, c'est parce qu'il manque de foi. La foi, c'est l'un des actes, c'est l'une des seules choses qu'on peut faire même que Dieu apprécie. Dans Jean 6, au verset 29, il y a des personnes qui viennent voir Jésus et qui lui disent, on veut faire les œuvres de Dieu. Dis-nous comment faire pour faire ce qui est agréable à Dieu. Ils veulent faire les œuvres de Dieu. Mais si vous regardez, enfin, si vous regardez, si vous pouvez, ou sinon regardez plus tard, dans Jean 6, verset 29, Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en son Fils. Il n'y a pas les œuvres, beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais une chose, croire en Jésus, croire en ses paroles. La foi honore Dieu, c'est quelque chose à laquelle Dieu prend plaisir. Et vous connaissez, on dit on est sauvé par la foi. On est sauvé juste parce qu'on croit que Dieu a puni tous nos péchés en Jésus. Et si on croit que Jésus est son Fils. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. D'abord, peut-être qu'on a tous une idée de c'est quoi le péché, mais c'est important de rappeler que le péché, quand on dit le péché dans la Bible, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Dans Matthieu 21, Jésus prend une parabole où il montre que le péché, c'est comme un crime contre Dieu lui-même. Le péché, c'est en gros comme si quelqu'un vous avait hébergé chez lui, vous a donné l'hospitalité, vous a donné à manger, vous a donné tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin et même plus. Et vous détruisez sa maison. Et à la fin, vous tuez la personne. Le péché, c'est une rébellion contre Dieu. Le péché, c'est pas juste faire quelque chose de mauvais. Le péché, c'est une attaque contre Dieu lui-même. Quand, par exemple, on déshonore le mariage, on attaque Dieu lui-même parce que c'est lui qui a créé le mariage. Et si on a une vie comme maritale, mais en dehors du mariage, on déshonore ce que Dieu a créé. Et c'est contre lui. Quand on voit, qu'on désire ce qui appartient à autrui, on pèche contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné à chacun ce qu'il a et qui nous a donné ce qu'on a. Et quand on n'est pas reconnaissant pour ce que Dieu nous a donné, on pèche contre lui-même. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ceux qui ont péché méritent la mort devant Dieu. Parce que c'est un acte extrêmement grave. Et donc, le paralytique arrive. Et le besoin est évident. Ce qu'il veut, c'est être guéri. Mais la chose que Jésus lui donne, c'est « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Pourquoi cette réponse de Jésus? Peut-être parce que la foi, c'est la chose la plus... C'est l'œuvre de Dieu. Croire en Jésus, c'est l'œuvre de Dieu. Et comme eux, ils ont fait la plus grande chose qu'un homme peut faire, Jésus leur donne la plus grande chose que Dieu peut donner à un homme. Le pardon des péchés. Il n'y a pas une meilleure chose qu'on pourrait recevoir de Dieu, qu'un pécheur peut recevoir de Dieu. Et une raison aussi, c'est que peut-être Jésus utilise cette maladie comme un outil pédagogique envers les Juifs qui étaient là. En général, en Israël, beaucoup associaient le malheur qui pouvait arriver dans la vie au péché. Et souvent même, on peut avoir ce raisonnement-là. Pourquoi cette personne a tout le temps, ne trouve jamais un travail? Pourquoi cette personne est tout le temps malade? C'est sûr qu'il a péché. C'est sûr qu'il y a des choses dans sa vie. Ou pourquoi Dieu ne le bénit pas? C'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Et donc peut-être les Israélites, en voyant un paralytique, peuvent dire, c'est sûr qu'il a beaucoup de péché. Et on voit ça d'un autre endroit. Même les disciples de Jésus, un jour, ils ont vu un aveugle né. Ils ont dit, Seigneur, qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents? Et Jésus leur a dit, c'est pas qu'il a péché ou que ses parents ont péché, mais ce qui lui est arrivé pour que la grandeur de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans sa vie. Et donc quand Jésus dit ça, on voit au verset 6, il y avait des scribes qui étaient assis. Donc on ne sait pas comment le bruit a couru, on ne sait pas à quel moment les Israélites sont arrivés dans la maison, mais il y a des spécialistes de la loi. Les scribes, c'était les spécialistes de la loi. Eux aussi, ils essayaient de suivre Jésus. Certains ont cru, comme on a vu l'autre jour Nicodème. Donc certains étaient sincères, voulaient écouter la parole de Dieu. Mais d'autres écoutaient Jésus juste pour piéger, juste pour le piéger. Pour dire, ah, tu as dit ça. Et c'est comme ça que finalement ils ont réussi à inventer des mensonges pour crucifier Jésus. Mais en tout cas, il y a des scribes qui sont là, on ne connaît pas leur motif. Mais ils se disent au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et quelque part, ils ont raison. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est un blasphème. Le péché, c'est contre Dieu. Imaginez un peu que quelqu'un cassait la maison de Gaël là, pour écouter la parole de Dieu et il casse la fenêtre. Et moi, je lui dis, ça va, je te pardonne. Ça n'a pas de sens, c'est pas ma maison. Pareil, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés parce que tout péché, c'est contre Dieu. Mais Jésus va leur montrer qu'il a ce pouvoir. En fait, pardonner les péchés, c'est pas, c'est avoir un pouvoir déclaratif. C'est un changement de statut. Il y a juste deux catégories de personnes dans le monde. Ceux qui ont leur péché et qui vont rendre compte à Dieu pour leur péché. Et ceux qui ont leur péché pardonné, qui n'ont plus de compte à rendre à Dieu. Et les scribes qui connaissent bien la loi disent, il n'y a que Dieu, parce que c'est contre Dieu, il n'y a que Dieu. On dit au verset 8, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. On ne sait pas de quoi Jésus parlait avant, on sait juste qu'il annonçait la parole. Mais dans le verset 10, on voit qu'il essaye encore de les édifier. On voit, il dit, afin que vous sachiez. Le but de l'enseignement, c'est que des personnes sachent. Et qu'est-ce qu'il veut leur enseigner? Il leur enseigne que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Quand Jésus dit le Fils de l'homme, il parle de lui-même. Mais ce que les Israélites, ce que les Juifs auraient compris du Fils de l'homme, dans Daniel 7, donc Daniel c'est un prophète, à un moment il voit des visions extraordinaires du futur. Et dans les visions qu'il voit, il dit, je vois un Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Pourquoi il parle de Fils de l'homme? Parce que normalement c'était une vision divine. Il était censé voir un être divin, il était censé voir Dieu sur les nuées. Mais quand il voit Dieu, Dieu a l'apparence d'un humain. Il dit le Fils de l'homme. Et quand Jésus dit ça, il dit, celui que Daniel a vu, qui avait dans la vision où Dieu descendait sur les nuées, c'est moi. Il dit, afin que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, moi, Dieu, qui un jour va revenir sur les nuées, et c'est souvent le symbole de la fin du monde quand Dieu revient pour juger, on dit, reviens sur les nuées. Cet homme-là, c'est moi. Je lui dis, je peux vous prouver que j'ai le pouvoir de changer le statut d'un homme. J'ai l'autorité pour dire à un homme, tu n'es plus un pécheur, maintenant tu es un homme pardonné. Et pour prouver qu'il a ce pouvoir, il dit au verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je pensais un peu le pouvoir chez les hommes, souvent ça vient de la légitimité. Soit on a acquis le pouvoir par la force parce qu'on est le plus fort, soit c'est juste légitime parce que tout le monde sait que ça nous appartient. Et Jésus a les deux. Non seulement il a le pouvoir, mais il a aussi la légitimité. Jésus peut pardonner les péchés parce qu'il est Dieu, donc c'est contre lui qu'on a péché. Jésus peut pardonner les péchés parce que nous lui appartenons. La création entière lui appartient, les hommes lui appartiennent. Il prouve que nous lui appartenons parce que juste avec une parole, il peut dire, et sa parole a des effets sur les membres de la personne. Donc c'est pour l'exploration de ce texte. Et j'ai trouvé trois implications qu'on peut tirer de ce texte. La première qu'on voit, c'est que le royaume de Dieu est pour les violents. C'est pas mon expression, c'est Jésus lui-même qui a dit cette expression. Dans Matthieu 11, verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui voulaient venir avec Jésus, avec un paralytique, nous montrent le modèle de comment on vient à Jésus. Ils ne sont pas découragés par la foule, par le fait qu'il fallait monter sur le toit d'une maison, par le fait que personne ne leur laissait la place. Mais ils ont été violents pour accéder à Jésus. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il faut être violent pour accéder à Jésus. C'est vrai que la semaine passée, Gaël nous montrait en parlant de Zachée que Dieu nous cherche. Et c'est vrai, Dieu nous cherche. Quand on commence à désirer Dieu, Dieu nous cherche. Mais la Bible nous dit aussi que pour trouver Dieu, il faut le chercher de tout son cœur. Je crois que dans Ésaïe, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas une foule physique qui nous bloque l'accès à Jésus. Mais peut-être qu'il y a une foule de médias, il y a une foule d'informations, peut-être qu'il y a une foule de distractions, une foule d'amis une foule d'écrans qui nous empêche de venir à Jésus, qui nous empêche de venir écouter ses paroles. Aujourd'hui, Jésus n'est pas un endroit physique où on va aller écouter sa parole, mais on écoute sa parole ici, quand on est entre nous. Mais surtout, je pense que c'est plus important d'écouter sa parole dans le secret, quand on lit sa Bible. Il y a toutes sortes de choses qui vont nous empêcher de venir à Jésus. Quand vous allez vouloir lire votre Bible, vous allez avoir la flemme, comme on dit. Vous allez vous dire, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Vous n'allez pas avoir la persévérance pour lire la parole de Dieu, pour prier et dire, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur disait, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Une autre implication que ce texte nous rappelle, c'est que Jésus est le Seigneur qui pardonne les péchés. Quand on dit que Jésus est le Seigneur, ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs. Il peut pardonner les péchés, il peut faire tout ce qu'il veut, parce qu'il a tous les pouvoirs. Et c'est impressionnant, au lieu de nous détruire, parce que nous avons péché contre lui, nous sommes par nature des ennemis de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Nous étions ceux qui ont cru en Jésus. Avec tous les pouvoirs qu'il a, il pourrait juste terrasser ses ennemis. Mais avec le pouvoir qu'il a, Jésus décide, Jésus veut pardonner nos péchés. Et puis, la troisième implication, c'est que Jésus, c'est le Seigneur qui restaure. En voyant ce texte, on voit Jésus a le pouvoir, juste avec une parole, de guérir quelqu'un qui était alité. On se dit, pourquoi Jésus ne guérit pas tout le monde? Il pourrait juste dire une parole et tout le monde serait guéri. Ou au moins tous les chrétiens, on a cru en lui, mais on n'est pas guéri. Mais le but du Seigneur, Jésus, n'a jamais été de guérir tout le monde. C'est vrai que Jésus était mu par sa compassion, qu'il voyait quelqu'un qui souffrait, il avait mal. On dit qu'il était pris de compassion et guérissait la personne. Mais l'un des buts, comme on l'a vu, comme lui-même il a dit, c'est afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus a fait tous ces miracles pour qu'on sache qu'il est Dieu. Et donc il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Donc on peut venir avec assurance à Jésus, compte tenu de tout ce qu'il a fait. Et un deuxième but des miracles que Jésus faisait, c'était de nous montrer qu'il a le pouvoir sur nous-mêmes. On peut croire à la parole. Jésus disait, celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt. Même s'il ferme les yeux, s'il meurt physiquement, son âme ne réunira jamais dans le séjour des morts, mais continuera à vivre. Il dit, et au dernier jour, je le ressusciterai. On peut croire à ça, à cette parole, à cause des événements que les personnes ont vus de leurs yeux et ont écrit. On sait que Jésus, un jour, même après la mort, va nous ressusciter. Et là, et ce sera plus que ce que Jésus a fait pour le paralytique. En fait, Jésus, en guérissant le paralytique, lui donne la faculté de continuer sa vie sur cette terre. Mais la Bible nous dit que la vie dans le ciel n'est pas possible avec ce corps-ci. Et l'apôtre Paul dit souvent, ce corps-ci, c'est comme une semence. Quand on sème une graine de maïs, c'est pas une graine de maïs qui sort, mais une tige. Et il dit, ce corps-ci sera semé comme il est, corruptible. Mais quand il va ressusciter, Jésus va nous donner de nouveaux corps pour vivre dans le ciel. Comment on peut croire à ça? Déjà parce que Jésus lui-même est ressuscité. Et parce qu'on peut voir dans sa parole, dans ses paroles, qu'il a le pouvoir de restaurer les hommes. J'ai prié pour nous sur cette base. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole. Père, je te supplie que tu m'aides moi-même à voir le pouvoir, la puissance du Seigneur Jésus pour restaurer toutes choses au dernier jour et avant cela pour pardonner les péchés. Merci Père pour cette phrase magnifique, tes péchés te sont pardonnés. Mon Père, je te supplie que celui qui n'a pas encore cette assurance dans le cœur, qui n'a pas encore entendu cette voix lui dire dans son cœur, tous tes péchés te sont pardonnés. Père, je te supplie que tu l'attires à lui, que tu l'attires à toi, afin qu'il vienne avoir le pardon de ses péchés. À quoi sert de vivre sur cette terre, de profiter de tous les plaisirs de cette vie, si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, si à la fin nous sommes punis, condamnés pour l'éternité, coupés loin de toi. Père, je te supplie. Père, merci pour le pardon des péchés. Mais Père, je te supplie, comme les amis du paralytique, que tu nous accordes la grâce de courir à toi, Père, de résister à tous les appels de ce monde, les distractions, les écrans, les amitiés qui ne nous conduisent pas vers toi, la paresse. Père, je te supplie que tu nous aides à désirer ta parole, à demeurer dans ta parole, à la lire, à la méditer. Père, aide-nous par ton Saint-Esprit. Bénis-moi, bénis chacun de nous et aide-nous à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est en son nom que je t'ai prié. Amen.
Amen.